Alors bonjour à tous, bienvenue sur permaculturedesign.fr. Aujourd'hui, je reçois Piero San Giorgio, qui est l'auteur du livre Survivre à l'effondrement économique aux éditions Le Retour aux sources. Donc bonjour Piero.
Bonjour. Bonjour.
Merci de nous recevoir tout d'abord.
Mais c'est moi qui vous remercie. C'est très sympa de pouvoir se parler et échanger quelques idées, quelques perspectives.
Merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu ce qui vous a amené à écrire ce livre, et puis vous présenter tout simplement?
Oui, alors je m'appelle Pedro Saint-Job, j'ai 41 ans, j'ai travaillé pendant 20 ans, quasiment 20 ans dans l'industrie informatique au niveau international, et pour terminer cadre supérieur, responsable des marchés émergents, et le fait d'avoir voyagé à travers le monde, d'avoir vu, j'ai ciblé toute l'Afrique, le Moyen-Orient, les pays de l'Est, eh bien ça m'a donné une certaine vision du monde qui n'est pas celle de ma Suisse douillette, où j'habite et où je suis citoyen. Et également, j'ai acquis une forte sensibilité des problématiques, on va dire, écologiques globales, comme j'espère la plupart des gens. Et enfin, je me suis rendu compte de la, on peut probablement en ayant une famille, en devenant père de famille, que l'équilibre de notre mode de vie n'est pas soutenable avec le mode de vie et la pénurie des ressources qui commence à se faire sentir à travers le monde, et que surtout nous sommes dans une logique de croissance et de consommation à l'extrême et qui nous amène inévitablement, d'une part, à ne pas être heureux et avoir du bonheur parce que la finalité de la vie, c'est pas d'accumuler des choses dans sa poubelle à la fin, et puis également à me rendre compte que notre système sociétal moderne, il va nous amener vers ce que j'appelle la convergence des catastrophes dans mon livre, et ça risque de ne pas être une partie de plaisir. Donc j'ai décidé de me préparer. J'ai petit à petit abandonné mon métier, mon travail. J'ai commencé à apprendre énormément de compétences et de savoir-faire autonome dans ma vie et pour moi, non, pour ma famille. Et l'avant-dernière étape a été de m'acheter, d'avoir tout vendu ce que j'avais en bourse, toutes mes économies, etc. Donc je me suis complètement sorti du système financier pour acquérir une ferme dans les Alpes, ici une ferme de montagne, et dans laquelle maintenant je réside l'essentiel de mon temps et où je travaille sur mon potager. Un peu moins sur mes animaux, j'en ai plus maintenant, mais je compte bien en avoir à l'avenir de nouveau. Et puis surtout, de m'occuper de ma famille et de me rendre le plus autonome possible. Et ce faisant, j'ai noté mes expériences, j'ai noté un peu la démarche intellectuelle et pratique qui a été la mienne, et je l'ai traduite et écrite, mise à l'écrit dans un livre. Qui est sorti il y a exactement un an, en octobre 2011, et qui depuis est devenu, à ma grande surprise et également à celle de mon éditeur, un très gros succès en France et dans le monde francophone. Un grand succès de librairie, plus de 20 000 exemplaires vendus sans aucun média, sans aucune couverture de presse dans les médias autres qu'Internet et le bouche-à-oreille. Et donc, ça montre que les préoccupations d'atteindre l'autonomie et aussi de se préparer à ces grandes crises qui sont en train d'arriver, elle est plus française.
D'accord, merci beaucoup. Donc, justement, au niveau de ces risques, nous, on connaît pas mal la fin du pétrole pas cher et abondant en permaculture, le dérèglement climatique, on en parle beaucoup. Mais dans votre livre, on découvre aussi d'autres facteurs de risque, notamment financiers, et puis d'autres ressources naturelles, en fait, qui arrivent à leur fin. Donc, on parlait des engrais phosphatés, des choses comme ça. C'est assez intéressant de voir ça, qu'il n'y a pas seulement que un ou deux facteurs de risque.
Non, malheureusement, parce que dans ma démarche, il n'y a aucun souhait morbide à ce que, malheureusement, ce que je décris arrive. Mais la constatation que je fais, c'est que clairement, en plus des problèmes liés à la surpopulation, au mode de consommation, au changement climatique et même ce que j'appelle dans mon livre les effondrements écologiques, l'un des éléments qui me terrifie le plus et qui est probablement celui qui me précipitera dans une crise accrue, c'est toute la problématique de la dette et donc liée à la finance. C'est-à-dire que pour faire la croissance économique sur ces 30 dernières années, nous avons créé de la dette, essentiellement dans les pays occidentaux, et pour en fait acheter une paix sociale et pour continuer à avoir un mode de consommation qui n'était plus possible avec la structure même de notre environnement économique. Et donc cette dette qui s'est accumulée dans certains pays, notamment les États-Unis, est devenue absolument colossale. Et elle sera impossible à rembourser. Et de plus en plus, elle devient un moyen de mettre les peuples, les nations, les collectivités locales en esclavage littéral. Et je le dis souvent, si l'argent c'est une créance sur du travail, donc la dette c'est une créance sur du travail futur, et une dette impossible à rembourser, c'est comme du travail infini, et ça s'appelle l'esclavage. Et on le voit en Grèce, on le voit en Espagne, on le voit de plus en plus même en France, que le poids de cette dette, c'est-à-dire de rembourser la finance internationale, qui, je vous le rappelle, ne prend rien, eh bien, toute la richesse, toutes les actifs productifs et culturels des pays vont être bradés, vont être vendus. Nous allons accélérer, en fait, un effondrement économique qui, de toute façon, est écrit, puisque nous avons des problématiques de ressources. Mais au lieu de pouvoir le faire sereinement, démocratiquement et finalement avec la population qui prend conscience des problématiques, on va dire écologiques larges, au sens large, et faire cette transition sur 20-30 ans, cette crise de la dette, elle va précipiter l'effondrement, elle va l'appauvrir, elle va nous enlever le capital et les richesses nécessaires dont nous aurions besoin pour faire cette transition énergétique, cette transition écologique. Et donc, elle va nous précipiter dans ce que j'appelle dans mon livre l'effondrement économique global et risque de nous couper l'herbe sous le pied. Et à mon avis, on le voit tous les jours dans les médias, dans les nouvelles, cet effondrement, il est déjà en marche.
Ouais, d'accord. C'est justement la question que j'allais vous poser. Donc, quels seraient les signes à surveiller pour éventuellement s'apercevoir, même si au niveau des médias, quand même, pas mal de choses sont biaisées. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas déjà dans l'effondrement et quels seraient ces signes justement qui pourraient nous dire qu'on y arrive?
Oui, on y est déjà, et clairement, les signes avant-coureurs sont ceux des faillites. Des faillites d'abord des petites et moyennes entreprises qui n'arrivent plus à se financer, mais plus graves seront les signes de faillite bancaire, de banques qui n'ont simplement plus les liquidités et qui d'ailleurs vont essayer au maximum de garder l'argent et de ne plus le rendre à leurs clients. Donc, faites très attention aux banques qui, sous des prétextes de panne informatique, ou autres ne vous donnent plus l'autorisation de retirer de l'argent liquide. Et puis, plus tard, les grands signes qui vont commencer à se faire voir, ce sont les pannes généralisées. Simplement parce que l'un des budgets qui va être coupé, le premier sera celui de la maintenance, de l'entretien. Eh bien, c'est une politique évidemment à court terme, mais à moyen terme, des pannes de plus en plus sérieuses et de plus en plus lourdes vont se faire voir. Donc, soyez très attentifs à des banques ou des distributeurs de billets qui ne fonctionnent plus, à des trains très en retard ou des pannes généralisées dans l'électricité, dans l'eau, etc. Ça, ce sont des signes très très avancés que le chaos commence à s'approcher, parce que la réalité, c'est que les systèmes humains fonctionnent en termes de paliers. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, nous pouvons avoir une dégradation qui est progressive. Et il y a des paliers au-delà desquels il y a des éléments du système économique, on va dire, qui s'effondrent brutalement. Ça peut donner des crashs boursiers, ça peut donner des émeutes, ça peut donner des révoltes, des révolutions. Impossible de savoir avec précision ni les dates ni les effets, mais on se rend bien compte que nous sommes dans un système qui est devenu trop complexe, et donc très fragile et donc très vulnérable.
Ouais. Bon, on n'est pas dans la dramatisation là, parce qu'il faut quand même se rappeler que même si on a que 30, 40, voilà, si on est dans cette, dans, si on est à 30, 40 ans, ne serait-ce qu'il y a quelques années, en Argentine ou dans d'autres endroits, on a pu assister quand même à des crashs économiques très, très, très importants et avec des conséquences dramatiques, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Je crois que moi j'ai eu peut-être cette chance, ou moins chance, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi c'était une expérience de vivre au Zimbabwe au moment où l'hyperinflation s'est déclenchée et où le dollar zimbabwéen perdait la moitié de sa valeur tous les jours. Et on a commencé à acheter le kilo de farine à plusieurs milliards de dollars le kilo. Et donc, j'ai vu ce que ça veut dire, l'hyperinflation, quand les gens perdent confiance dans le système financier, quand ils perdent confiance dans la monnaie, dans ce qui fait l'argent, ça va très très vite et c'est extrêmement redoutable. Alors quand c'est un seul pays, comme effectivement l'Argentine, ou comme ça a été le cas plein de fois dans l'humanité, il y a énormément d'exemples d'effondrement financier, le reste de l'environnement permet ensuite de rebondir, ça va, c'est difficile pendant un certain temps, les Argentins ont mis 10 ans pour s'en sortir, mais généralement ils s'en sont sortis parce qu'il reste l'aide internationale, et il reste surtout comment dire, l'énergie nécessaire, les matières premières, les ressources pour pouvoir redémarrer. Malheureusement, dans justement la convergence des catastrophes, cette crise globale financière, elle coïncide avec le renchérissement des matières premières et des ressources, et donc cela rend très très difficile de redémarrer.
J'en reviens à un autre chapitre de votre livre qui est intéressant. Beaucoup de permaculteurs sont plutôt bon, évidemment très positifs puisque la permaculture peut être une solution, une des solutions à tous ces soucis. Mais il y a toute une partie sur la défense qui m'a interpellé parce que c'est vrai que bon, en temps de crise, il peut y avoir des possibilités de violence, voire même pire. Donc, alors certains se positionnent en disant que les armes peuvent être remplacées par de la générosité, mais bon, vous voyez les choses comment?
Alors, ce que j'explique dans mon livre, c'est que pour être autonome dans la durée, en fait, il y a sept éléments fondamentaux qu'il faut savoir maîtriser. Alors, évidemment, ils sont par ordre de hiérarchie de besoins physiologiques. Il y a l'eau, la nourriture, l'hygiène, la santé, l'énergie, la connaissance. Et ensuite, il faut bien sûr, et je vous ai expliqué de quoi il s'agit, la défense. Et enfin, le plus important, c'est le lien social. Et d'ailleurs, le lien social, c'est la meilleure défense. Mais
Oui,
la
justement.
réalité, c'est que un monde chaotique, et l'histoire le montre, ceux qui ont pu voir, même des personnes généreuses, même des personnes qui sont à la limite prêtes à accueillir des gens et partager de la nourriture, parfois, eh bien, ils sont face à des gens qui sont simplement, par nature ou par
Nécessité.
besoin, extrêmement prédateurs et méchants. Ça existe, des gens mauvais. Et si quelqu'un décide par sadisme ou par méchanceté de vous exterminer simplement pour prendre votre potager, le piller, quitte à le détruire. J'ai vu faire ce genre de choses et j'ai beaucoup d'amis qui travaillent en Nations Unies, qui ont travaillé dans les pays en guerre, etc. Parfois, l'être humain, malheureusement, prend des logiques très très terribles envers ses congénères. Sans aucune raison, et même contre-productive. J'ai vu des gens brûler des hôpitaux simplement parce qu'ils étaient énervés contre leur gouvernement. Or, l'hôpital, c'est un bien commun, c'est quelque chose qui, peu importe le gouvernement au pouvoir, sert à tout le monde. Donc, ce genre d'attitude complètement qui semble absurde, malheureusement, c'est la réalité lorsqu'il y a des situations chaotiques et des gens méchants. Et donc, ce que je peux dire à vos lecteurs, c'est certes. Et moi, je n'aime pas l'agressivité. Je pense que c'est bien pour ça que je parle de défense et non pas d'armement. Il faut savoir se défendre. La meilleure défense, c'est bien sûr la discrétion, c'est de ne pas être dans les endroits à risque, si possible. C'est aussi évidemment devenir indispensable. Mais je crois aussi à quelque chose qu'en Suisse, nous avons encore, parce que nous avons encore une approche très citoyenne de la défense militaire du pays, puisque chaque Suisse a une vocation à être un citoyen soldat. Eh bien, nous avons cette approche de la défense de notre famille qui est un devoir plus qu'un droit, et de notre pays également. Donc, nous sommes tous ici en Suisse armés avec des fusils de guerre.
Ah oui, je savais pas.
Et donc, ce que je préconise dans le livre, c'est d'apprendre tout d'abord dans sa tête ce que ça veut dire se défendre, de ne pas être naïf. Ensuite, je suis tout à fait d'accord que la générosité est importante, et c'est bien une des raisons pour laquelle il faut se préparer. Celui qui n'est pas préparé, il ne peut pas être généreux avec les autres. Mais avoir son fusil de chasse, avoir de quoi se défendre, et surtout se grouper avec ses voisins ou les habitants de la région pour faire une sorte de défense commune, eh bien, c'est probablement la solution. Parce que si vous vous retrouvez comme en 1940 avec un ennemi, ben voilà, l'ennemi qui décide de vous envahir, il n'en a que faire de votre générosité. Donc à un moment, il faut savoir être des hommes libres. Et les hommes libres, c'est des gens capables de se défendre et qui, à un moment, trace une ligne dans le sol et qui disent, voilà, au-delà de cette ligne, je n'accepterai pas l'humiliation, je n'accepterai pas le pillage, je n'accepterai pas le viol, je n'accepterai pas la soumission de ma famille et de moi-même. Et donc, c'est une notion qui peut plus comprendre, qui a pu choquer beaucoup de gens après 50 ou 60 ans de paix en Europe.
Ouais.
Mais toi, c'est quelque chose, à mon avis, auquel il faut réfléchir et en son âme et conscience apporter des solutions qui sont sans excès, sans fantasme, mais de manière réaliste, qui nous permettent de rester vivants.
Ouais.
Et voilà, sans, ni plus ni moins.
Alors, vous dites qu'une des solutions, c'est le lien social. C'est justement ce que les mouvements de transition et les mouvements de permaculture prônent aussi. Comment vous avez rencontré la permaculture et qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, lorsque j'ai acheté cette ferme et que j'ai commencé à me poser la question de mon potager, qui était les personnes qui m'ont vendu la ferme étaient âgées, mais ils avaient un petit potager qui était tout à fait traditionnel avec des rangs d'oignons, des rangs de poireaux, de choux, de courges, etc., qui était très bien, la terre est très bonne. Simplement, bien que j'ai commencé à apprendre, puisque moi je suis passé d'un cadre de cadre supérieur à apprenti fermier, donc c'était un choc culturel, et puis c'était toute une série de compétences qu'il m'a fallu apprendre. Eh bien, j'ai acheté quelques livres donc en 2010 de jardinage et de potager. Je suis tombé sur un livre de David Holmgren, qui est, je crois, l'un des pionniers dans la permaculture, un Australien, je crois.
Ouais, c'est un des cofondateurs, ouais.
Voilà. Et c'était pas Permaculture One.
Ouais.
C'était un livre très récent. Et puis de ce livre-là, je suis passé à effectivement Permaculture 1. Et récemment, j'ai découvert des gens extraordinaires comme Sepp Holzer en Autriche, et puis même des lecteurs de mon livre qui m'ont parlé, qui m'ont échangé un peu, qui m'ont montré ce qu'ils font en Dordogne, en Bretagne, dans le sud de la France, etc. Et donc, j'apprends constamment. Et mon objectif, donc cette année, j'ai un peu, entre guillemets, saccagé mon potager pour le transformer, pour terrasser le potager qui était en pente, et puis un petit peu le transformer pour que l'année prochaine, basé sur justement un plan que je me suis fait avec des graines, des semences parfaitement adaptées à l'altitude, parce que j'ai essayé les tomates à 1000 mètres d'altitude, j'ai pas eu le succès escompté. Maintenant, j'ai sélectionné des graines, j'ai acheté chez Cocopelli des graines traditionnelles, je suis allé voir aussi mes voisins. Donc, effectivement, par le lien social, j'ai découvert que ben voilà, eux travaillent des haricots, du maïs, des céréales qui fonctionnent très très bien à 1000 mètres d'altitude et qui tiennent sur qui poussent assez rapidement dans une saison en courte.
Ouais.
Et donc, sur ce terrain que j'ai terrassé, j'ai prévu effectivement de démarrer. Donc, j'ai déjà commencé avec des herbes sauvages. Donc, ce ne sont pas des céréales, ce ne sont pas des légumes. Mais cette année, j'ai déjà fait une partie de mon jardin qui était simplement rempli de sarriettes, de menthe, d'ortie. Et j'ai gardé un petit peu un aspect sauvage, ce qui m'a permis de sécher, d'avoir aujourd'hui, ben, j'ai de quoi faire de la tisane, de la camomille, etc. Mais c'était plus un jardin de la berbe.
Ouais.
Et l'année prochaine, je veux ajouter à ce jardin d'herbe un autre. Et donc, j'ai arrêté le potager qui m'a donné cette année. En ce moment, c'est la saison des courges, là, en fin octobre. J'ai des très bons potirons. J'ai essayé de passer ça avec des buttes, des lits surélevés, et puis effectivement entièrement avec des bassins. J'ai fait les bassins d'eau pour ralentir un petit peu le froid au printemps et en automne, pour que l'année prochaine je sois beaucoup plus en permaculture et que je puisse finalement gagner 1 ou 2 degrés de température en moyenne sur la saison, pour pouvoir produire un petit peu plus longtemps, un peu plus de légumes. Et mais surtout, ce qui m'a fasciné dans la permaculture, c'est qu'on est certain, en essayant d'imiter la nature, nous enrichissons les sols au lieu de les appauvrir. Je vous apprends rien.
Ouais,
mais cette approche-là, je l'ai trouvée fascinante, parce que c'est vrai que c'est ce que me disent la plupart des gens qui font des potagers, et je les encourage, hein, tous les jours en ville ou à la campagne, ils me disent tous quand même que pour avoir des bons rendements, ils sont quand même obligés d'ajouter des engrais. Et donc le jour où ces engrais seront hors de prix ou simplement peu disponibles, on va devoir tous réfléchir à d'autres techniques pour enrichir nos sols au lieu de les appauvrir. Et la permaculture m'a paru extraordinairement adéquate à tout ça.
D'accord. Bon, avant de se quitter, justement, j'aimerais savoir vous ce que vous conseillez comme premier geste, comme première chose à faire pour agir réellement, parce qu'on peut intellectualiser pendant beaucoup de temps, lire beaucoup de d'informations sur Internet ou d'ouvrages sur toutes ces crises, etc. On peut même en devenir presque addict, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour agir réellement et concrètement, parce que c'est quand même tout de suite et maintenant là.
Oui, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Je pense qu'il faut avoir une stratégie qui est équilibrée, ne pas être dans le déséquilibre. Ce que je dis toujours, je rencontre des gens qui ont des potagers parfaits, mais qui n'ont pas d'autonomie au niveau de l'énergie ou capacité de se défendre. À l'inverse, c'est des gens qui sont surarmés, ils sont armés jusqu'aux dents, mais ils n'ont pas de réserve d'eau, ils n'ont pas de potager. En fait, il faut être équilibré. C'est comme tout dans la vie, il faut apprendre à travailler, se préparer de manière équilibrée, ne pas perdre de temps, commencer à lier les liens sociaux autour de soi,
Aller voir ses
réfléchir,
voisins.
oui, complètement, même au sein de sa famille,
Ouais.
réfléchir à comment on se met en place tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider les uns les autres. Échanger des graines, échanger des savoirs, échanger des compétences, des expériences, et ensuite se mettre en route et faire petit à petit en fonction de ses moyens, en fonction de ses compétences, et simplement pas rester dans la théorie, se mettre en action. L'action, c'est ce qui nous permet d'éviter de déprimer, c'est ce qui nous permet d'éviter d'angoisser, et puis de manière intelligente, advienne que pourra. Et je pense que ceux qui se préparent, ils ont de très très grandes chances de bien s'en sortir dans cette transition difficile qui arrive.
Ok, ben merci beaucoup pour cet ouvrage, en tout cas Pirou, qui est très intéressant et qui est très enrichissant. Il a le mérite de nous alerter et puis aussi de donner des pistes quand même pour agir justement. On peut vous retrouver sur le site www.pirou.com, je me trompe pas?
Tout à fait.
Et puis, ben la permaculture, c'est aussi une science de l'aménagement des espaces écologiques. Donc, n'hésitez pas autour de vous aussi à en parler. Je pense que vous le faites déjà. Et ça a toute sa place dans cet avenir aussi en transition. Donc, ben, je vous remercie beaucoup et puis bonne continuation et à très bientôt.
À bientôt.
Merci.